France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La notion de négociation nous occupe cette semaine. Revenons ce matin au mot lui-même, négotium, l'envers de l'oisiveté studieuse, otium, soit un domaine souvent peu valorisé par la philosophie et par le christianisme. Et oui, la négociation dans son sens contemporain n'est pas un objet qui va de soi pour la philosophie. Nous l'avons senti dans cette série, il y a peut-être des raisons historiques à ces difficultés. Négociation vient de negotium, un mot qui est lui-même un négatif, le contraire de otium. L'otium, mot latin, renvoie pour une large part à la vie de la pensée, vita contemplativa, vie philosophique notamment, en retrait de la vie active ou vita activa. Or, c'est un mode d'être profondément valorisé par Platon et Aristote, la vie contemplative, et cela demeurera un enjeu, celui de l'étude et de la réflexion dans la pensée antique et médiévale et encore à la Renaissance. D'autant que dans la tradition chrétienne, la figure d'Augustin, à la charnière des 4e et 5e siècles, a encore renforcé la valeur de la vie contemplative. En effet, sur le domaine des actes, c'est Dieu qui a le dernier mot pour l'augustinisme et l'homme déchu est invité à se recentrer sur son intériorité. D'ailleurs, il y éprouve et pense cette déchéance même. Alors évidemment, il ne faut pas caricaturer les choses et les spécialistes que nous convions ce matin affineront tout cela. Néanmoins, la question se pose de savoir si l'importance de l'otium n'a pas fragilisé l'appréciation de tout ce qui n'est pas l'otium. Pour ce qui concerne la vie civique, on peut faire confiance aux Grecs et aux Romains pour la valoriser beaucoup. Et ce legs demeurera fort dans les cités italiennes. Mais pour les activités de production et de commerce, c'est moins sûr. Le negotium est négocié, si j'ose dire, pour être apprécié. Nous décryptons cela ce matin. Bonjour Sophie van der Meren.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes professeure de grec à l'université Rennes 2 et présidente de l'Institut d'études augustiniennes. Bonjour Fosca Marianizzini.
Bonjour.
Vous êtes professeure de philosophie du Moyen-Âge et de la Renaissance à l'université de Tours. Bonjour Jean-Louis Fournel.
Bonjour.
Vous êtes notre troisième invité, vous êtes déjà venu. Vous êtes professeur d'histoire et de culture de la Renaissance italienne à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, spécialiste avec votre co-auteur Jean-Claude Zancarini, spécialiste des cités italiennes de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, et notamment de Machiavel, très impliqué dans la République de Florence tant qu'elle a duré. Vos travaux à tous les trois sont précisés sur le site de notre émission. Alors Sophie van der Meren, bon, les marchands doivent être bien surveillés pour Platon. Pour Aristote, peut-être que c'est un peu moins radical, il n'en reste pas moins que le plus appréciable dans la vie active, la vita activa, diront les Romains, c'est la vie civique. C'est bien cela, si quelque chose doit être valorisé dans la vita activa, c'est cela et peut-être seulement cela. Est-ce que les Romains ont hérité de cette manière de penser ?
Alors, je suis d'accord sur un certain point, c'est-à-dire que à Rome et notamment dans les débuts de la République et dans la République, le negotium, les affaires civiques, commerciales, etc., sont extrêmement valorisées, puisque je dirais la collectivité, l'engagement pour l'État prime sur la vie de l'individu. C'est moins net chez les Grecs, dans la philosophie grecque qui a précédé les Romains, parce que chez les Grecs, on a vu s'imposer beaucoup plus tôt la possibilité d'une vie contemplative qui fait son apparition avec des individus comme Socrate,
oui,
et avec l'émergence d'une classe, je dirais, intellectuelle qui va être reconnue beaucoup plus tôt qu'à Rome. À Rome, je dirais, les choses vont mettre beaucoup plus de temps à s'imposer.
Vous voulez dire que la vie contemplative et notamment philosophique est vraiment ce qu'il y a de plus valorisé par les Grecs, même par rapport à la vie civique, pour employer un mot d'origine romaine. Chez les Romains, c'est moins vrai. La vie civique est très fortement valorisée. Et vous allez me dire ce qu'il reste pour la vie contemplative. Alors.
Oui, elle est très fortement valorisée. Disons que chez les Grecs, la vie contemplative était liée à une élite. Mais je dirais que depuis très longtemps en Grèce, il était admis qu'une élite s'adonne à la vie contemplative. Et d'ailleurs, oui, vous avez très bien fait le lien entre la problématique otium negotium et celle des genres de vie. Hein, c'est deux choses qui sont
liées. La manière
liées.
Le thème de des genres de vie. Dans
voilà, exactement. À Rome, ça va mettre beaucoup plus de temps à s'imposer parce que, je dirais, dans les premiers temps de Rome, le modèle du Romain est le soldat, et au départ le soldat paysan, est l'homme qui est engagé au service de la Respublica. Oui. Et le modèle grec de la vie contemplative qui va être progressivement importé à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ et notamment après par Cicéron, va rencontrer beaucoup de résistance. Parce que ça va contre le modèle du citoyen romain engagé pour l'État.
Dans tous les cas, si dans le négotium il y avait aussi d'autres choses, car dans la vie active, nous ne faisons pas que faire de la politique. Il y a aussi le commerce, les marchands, la vie productive.
Oui, tout à fait.
Tout cela, ai-je envie de dire, autant pour les Grecs que pour les Romains, autant pour les Romains que pour les Grecs, c'est fondamentalement dévalorisé. Ou là aussi, c'est plus complexe.
C'est plus compliqué. Je dirais que la question de la valorisation ou de la dévalorisation du négotium ou de l'otium est une question qui se pose essentiellement pour les philosophes. C'est une question dont s'est emparée la philosophie et on voit très bien avec un personnage comme Cicéron qui est, à côté d'être un philosophe, un orateur, un homme politique, un avocat, qu'il y a une tension permanente chez lui et je dirais une négociation pour jouer entre les mots, et négotium. Mmh. Une tension permanente, une tension qui, chez Cicéron, n'arrivera pas vraiment à se résoudre.
Mais vous voulez dire négotium au sens de la vie civique, ou bien ce que je viens d'évoquer, qui est pour nous le monde du négoce, c'est ce qu'on entend le plus aujourd'hui dans négotium. Oui. C'est-à-dire, mais pourquoi la dévaloriser? Le monde, il faut bien vivre, il faut bien manger, il faut bien produire. Comment les Romains, après les Grecs, voyaient-ils cet aspect-là de la vie active?
Alors, ils la voyaient positivement. Ils la voyaient positivement et ils voyaient l'otium comme, je dirais, un temps libre, hors de ses activités, qui pouvait parfaitement être investi par, je dirais, la pensée, mais une pensée qui permettait de se nourrir, de réfléchir à de nouvelles idéologies qui, après, pouvaient, je dirais, s'insuffler dans cette vie active, dans le négoce, dans les activités politiques, commerciales,
etc. Donc c'est peut-être moins dévalorisé qu'avant, par exemple, par Platon. Bon, dans la République, c'est évident, la République idéale doit faire très attention à cette partie de la cité faite. D'ailleurs, je me souviens que dans la traduction Garnier-Flammarion en français, l'épitumia, la mauvaise partie de l'âme, la mauvaise partie de la cité, le marchand, ils traduisent par les hommes de négoce. Oui. Donc, on est bien dans notre sujet.
Oui.
Les Romains sont moins sévères avec ces activités-là.
Oui, tout à fait. Les Romains sont moins sévères.
Alors, justement, continuons, montons un peu, si je puis dire, dans le Moyen-Âge, Antiquité tardive, puis Moyen-Âge. Fosca Marianisini, est-ce que le christianisme va changer la donne tout de même, et notamment Augustin, qui était quand même pétri aussi de culture gréco-romaine, qui va devenir chrétien, est-ce qu'il va renforcer la valeur de l'otium, c'est-à-dire la vie contemplative? Et qu'est-ce que va devenir, si la réponse est oui, le reste de nos activités, le negotium?
Alors, il y a un point important à souligner, c'est que l'interrogation sur l'otium et negotium, certes, modalité d'interrogation sur la vie active et contemplative dans le christianisme, mais l'otium et negotium change un peu la donne. Pourquoi? Parce que il y a deux niveaux, deux éléments qui sont pas vraiment inclus dans la vie active et contemplative. C'est la question du temps.
Vous parlez d'Augustin là.
J'ai parlé d'Augustin et du christianisme. Je parle même de la communauté monacale, disons, qui est très très important. C'est un point.
Donc
important.
La question du temps.
Du temps
passe au premier
quotidien.
Plan.
Pas le temps du cycle de la vie, mais le temps quotidien. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Comment organise notre temps entre procrastination et précipitation? C'est vraiment un ancrage, la question de l'ordre sous négoce, dans le christianisme, devient une question aussi d'ancrage dans la vie quotidienne, du temps. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps aujourd'hui? Comment on répartit et distribue notre temps entre les activités on peut dire les négociants, c'est-à-dire l'activité du travail, du champ, de l'économie, si vous voulez, parce que les communautés de moines travaillent, et le temps réservé à la prière, à la contemplation, à la méditation. Parce que les communautés des moines sont des communautés qui travaillent. Ce qui entre vraiment donc sa question du temps, et la deuxième question, c'est la question du travail.
Alors simplement, c'est très important, là, ce que vous venez de dire, se pose la question de savoir ce qui reste pour la vie civique, je la laisse de côté un instant.
Oui, pour l'instant, on la laisse.
Mais le travail des moines, il se fait malgré tout en retrait. Et c'est un peu l'idée du clergé régulier par rapport au clergé séculier, en retrait, disons, de la vie ordinaire. Est-ce pour cela, et parce qu'il est bien toujours marié à des temps forts de otium, de prière, d'études, ce mariage va très bien, évidemment, dans une communauté monacale. Est-ce pour cela qu'il est, à ce moment-là, valorisé, alors que le travail des profanes, des laïcs, pour employer le mot chrétien, de ceux qui ne sont pas des clercs, ça, c'est quand même beaucoup moins bien vu.
Je pense pas qu'on puisse dire vraiment les choses comme ça, parce que ce sont des communautés qui vivent isolées, mais pas vraiment. À un moment donné, au XIIIe siècle, les ordres entrent dans la ville. Ils ont un très grand pouvoir dans l'éducation. Donc, moi, je défendrais pas mal ce modèle de communauté de moines. C'est parce que le temps est vraiment organisé avec les prières. Parce qu'il y a aussi justement cet ancrage dans le temps quotidien, mais en avant, de façon très pertinente, tous les dangers et de l'otium et de l'onegotium. L'otium, ça peut être cet retrait sur la prière et la négociation, mais peut porter aussi, conduire un sens de vide, des solitudes tristes, donc la chille, la mélancolie du moine qui se trouve isolé et perdu dans la mélancolie. Être isolé n'est pas très très bien. Montaigne aussi écrit beaucoup tard, disons, le risque de la solitude comme forme d'égoïsme où l'imagination tourne à vide. Et les risques du négociat, disons, c'est-à-dire une forme de précipitation, d'agitation, de dissipation de soi. Les moines ont bien, disons, souligné les deux dangers. Donc, ils distinguent entre l'otium et l'oisivité, la paresse. Donc, dans l'otium, il y a une part, la valeur du travail est très important. Il ne faut pas oublier que même si les communautés, des communautés isolées, ils allaient sur les marchés, ils sortaient.
Oui, c'est très important.
Donc,
c'est
une vision un peu. Ils avaient un pouvoir religieux, certes, mais politique,
ils
administratif,
pas si
très très fort. Donc, ils n'étaient pas.
Mais alors, il y a une question qui se pose quand même. Si le travail dans ce contexte est valorisé, est-ce que le travail pour le profit, qui est quand même la production pour les gens ordinaires, il faut s'en sortir financièrement, et puis bon, voilà, même si on peut réussir dans ses affaires, c'est mieux. Est-ce que l'aspect profit dans le travail et la production, lui, dans le christianisme primitif, chez les pères de l'Église, chez Augustin, dans la culture monastique que vous évoquez, est-ce que tout cela est pour le coup très mal vu ?
Oui, là, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a un passage, je dirais, mais je parle sous le contrôle de Jean-Louis, disons, au XIIIe siècle, le XIIIe siècle, quand il y a vraiment un essor de l'économie des marchands, des commerces, qu'on voit dans Boccace, par exemple, ou on voit aussi dans l'écrit des Pétrarques. Il y a un passage, disons, le négociat d'abord, c'est un travail, on ouvre, on se fatigue pour être utile à d'autres personnes, ou à sa communauté et aux autres. En revanche, au début de l'humanisme, il y a un changement de perspective.
Là, vous parlez du 15e, 16e siècle
Encore
plus tôt.
14e siècle, disons, vers l'époque des Dante, de Boccace, de Pétrarque, parce que déjà, il pointe cette chose où il y a, on n'est plus vraiment utile aux autres, mais on cherche l'utilité pour soi. Donc, le profit. Et il y a toute une littérature au XIVe siècle, en particulier à Florence, Poggio Bracciolini et d'autres, qui met en avant, par exemple, il y a des traités sur l'avarice honnête.
Oui.
Donc, c'est-à-dire sur le côté positif de l'utilité, de l'accumulation des richesses, le désir d'argent, le désir de richesse, disons du profit, oui, est mis en avant comme quelque chose de très positif.
Donc ça, c'est très nouveau.
C'est très nouveau.
Et ça se passe quand même plutôt en Italie, si j'ai bien compris.
Oui, on n'est pas toujours les meilleurs.
Non, mais du coup, voilà. Donc, parce que bon, je sais, je me doute que les travaux continuent, mais on peut dire à nos auditeurs qu'il y a quand même un gros livre en deux volumes paru en 1978 de Quentin Skinner, les fondements de la pensée politique moderne, qui dit à quel point il y a des différences entre la Renaissance du Nord de l'Europe et la Renaissance italienne, qui a été première d'ailleurs, et qui elle-même, 14e, 15e siècle, c'est le début. Cet humanisme-là a des différences, et vous venez d'en mentionner une, c'est-à-dire que même la question du profit, etc., est peut-être un peu moins dévalorisée, voire valorisée, alors que Jean-Louis Fournel, on vient nous expliquer très clairement que pour la culture chrétienne, plutôt du nord de l'Europe, franchement, ça c'est difficile. C'est le négotium, le pire, quoi, celui que vraiment on n'arrive pas à apprécier.
Oui, alors je crois qu'il y a un point qui est absolument fondamental dans cette affaire, c'est l'apparition des ordres mendiants, des franciscains et des dominicains, parce que ils essayent de négocier justement une sorte de retour à la cité de la part de ces personnes qui s'étaient plutôt écartées du monde, même si évidemment ils fréquentaient le monde, mais ils s'étaient écartés du monde, et les dominicains et les franciscains vont prendre au sérieux cette mission de réévangélisation, en quelque sorte. Il faut accompagner l'évolution du monde et apporter la parole de Dieu dans ce monde qui change, y compris sur le plan économique. Oui. Et du coup, leur fonction même va changer. C'est-à-dire qu'on retrouve très souvent des dominicains et des franciscains qui, par exemple, jouent les hommes de paix pour régler des conflits internes à la cité. Et ils peuvent le faire à la fois parce que ce sont des hommes de Dieu, mais aussi parce qu'ils viennent d'ailleurs, parce que justement ce sont des personnes qui sont itinérantes et qui donc à cet égard peuvent avoir une autre vision, une vision extérieure par rapport au conflit, par rapport au problème, par rapport à tout ce qui peut générer des troubles dans la cité. Et du coup, cette fonction même-là modifie l'équilibre entre osium et négocium et modifie la notion même de l'osium, et il est assez intéressant de voir comment, vous savez, chaque fois qu'on modifie une notion, on ajoute des spécificités.
Ben oui.
Donc, par exemple, les latins disaient l'osium cum dignitate, donc c'était un osium acceptable.
Ce qui veut dire qu'il y a un osium qui est détestable.
Qui est un osium digne, comme il y a un osium indigne.
Alors,
et donc, il y a un
osium
digne, comme il y a un osium indigne. Et de la même façon, pour parler de la question du profit que vous évoquiez tout à l'heure, il y a un profit digne et un profit indigne.
Ah, oui.
C'est pour ça qu'on crée les monts de piété. Les monts de piété, en fait, légifère, régule le profit acceptable, 5%, en gros. Et pour un catholique, on peut faire 5% de profit quand on prête. On ne peut pas faire plus. Parce que là c'est quelque chose qui donc va au-delà de ce qui est acceptable. Donc, ce qui se passe, et là on est vraiment dans la négociation, c'est qu'à partir du XIVe siècle, vous avez constamment une sorte de négociation entre vie active et vie contemplative, osium et négocium.
C'est très intéressant, parce qu'on part quand même de choses aussi bien dans la tradition grecque, romaine que chrétienne, où quand même c'est tendu entre les deux à une situation plus d'aménagement, en fait, des modes de vie. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité italienne ? Alors, évidemment, il faut quand même rappeler, il y a des cités, il y a le premier républicanisme du monde moderne, c'est là-bas, en souvenir, bien entendu, de la République romaine, de Pise à Florence, en passant par toute Venise, qui sera la plus tardive, qui, je crois, mourra en dernier, de toutes les républiques.
Oui, tout à fait.
Au
à
16e
la fin
siècle.
Du 18e.
Oui, encore plus tard, d'accord.
À cause de Napoléon.
D'accord. Donc, il y a quand même un rapport privilégié à la vie civique, et l'idée du vir virtutis, de l'homme qui a des vertus de nature civique. Est-ce que c'est ça qui fait la spécificité italienne ou pas seulement ?
Alors, ce qui fait la spécificité italienne, c'est que vous avez deux choses qui sont assez fondamentales, qui se nouent, mais qui se nouent pas seulement en Italie, ça existe aussi dans l'Europe du Nord. Hein. Mm-hmm. C'est une proto-industrialisation qui permet une accumulation de richesses et donc des moyens, et donc par exemple un rapport à l'art qui est différent. Voilà, hein. Et puis par ailleurs, un type d'organisation de la communauté qu'on va appeler la République pour simplifier,
oui. Hein,
et qui en gros est fondée sur la participation d'une partie de la population plus ou moins large, qu'on va appeler les citoyens. Là aussi, il faudrait dire ce que c'est que le citoyen, ce que c'est que le peuple, mais simplifions. À partir du moment où vous avez ces deux choses qui se mélangent, oui. Vous avez aussi une négociation entre le sium et le négocium, puisque vous avez le couple libertas-osium qui doit se recomposer. C'est-à-dire que la participation à la communauté et au gouvernement de la communauté doit aller de pair avec la capacité de s'écarter aussi de cette communauté pour faire ses affaires, par exemple, pour réfléchir, tout simplement. Je vous donne un exemple tout simple. Dans cette réinvention extraordinaire de la République, qui est la réforme institutionnelle de Florence en 1494, avec la création du Grand Conseil, mmh. On décide que siégeront au Grand Conseil, lieu de la souveraineté de la cité, lieu de la souveraineté de la République, incarnation de cette souveraineté, 3000 personnes. Mmh. Ces 3000 personnes, elles travaillent en même temps.
Mais oui.
Donc, il faut concilier à ce moment-là la possibilité de donner du temps à la communauté et de continuer à assurer son travail à la boutique.
Donc forcément, il y a une revalorisation même de ce quotidien où il y a du profit, où il y a des intérêts, où il y a du calcul, où il y a de la négociation.
Tout ça, c'est la question du métier.
Oui, c'est ça.
C'est la question du métier. Je vous citerai une lettre absolument extraordinaire de Machiavel, qui n'est pas la lettre du 10 décembre qu'on cite souvent, qui est une lettre qui est antérieure à cette lettre. Et Machiavel dit en substance à au destinataire de la lettre, à Francesco Vettori, il lui dit la chose suivante. Il se trouve que moi, je n'ai pas réussi, je ne suis pas bon pour travailler sur l'arte della lana, donc le métier de la laine, qui est aussi la corporation des gens qui travaillent sur la laine. J'ai travaillé sur l'arte dello Stato, le métier de l'État, qui n'est pas du tout une science de l'État, contrairement à ce que certains disent, qui n'est pas du tout un art de l'État, c'est le métier de l'État. L'État est un métier, donc il y a une conjonction possible, tout est négocium en quelque sorte. Oui. Tout est négocium, la politique comme l'économie.
Alors j'ai quand même encore une question, parce que vous avez parlé de 1494... C'est le moment où Savonarole, dominicain, est à son apothéose. Enfin, il prêche dans la cathédrale de Florence et il organisera ce qu'on appelle des bûchers de vanité. Alors, vous connaissez ça mieux que moi. Moi, ce que j'en ai appris, c'est que quand même, il était très dur sur le profit, sur le commerce. Et d'ailleurs, on y brûlait des objets luxueux, des vêtements. Donc, c'est peut-être aussi un moment, non, de mépris, voire d'inquiétude à l'égard de tout ce qui est négocium au sens du commerce, du luxe, du profit, des intérêts, etc. Oui ou non, alors?
Oui et non.
Jean-Louis Fournel.
Oui et non. Parce que vous avez, il faut dissocier deux choses. Le type de rhétorique de la prédication qui conduit à ce que j'appellerais une radicalisation du discours et du propos, qui va dans le sens de ce que vous venez de dire. Mm-hmm. Hein. Mais pas toujours. Mais pas toujours. Parce que très souvent, dans les sermons de Savonarole, il ne faut pas isoler, comme toujours, il ne faut pas isoler une phrase, il ne faut pas isoler un passage d'un sermon. Il faut lire les sermons les uns après les autres. Parce que le sermon, c'est un dialogue continu, quasiment quotidien, avec la population, avec les citoyens. Et donc, on dit quelque chose de radical, et après, immédiatement, on le nuance en disant « Bon, d'accord, mais là, j'ai un peu exagéré. En fait, ce que je vous demanderais, c'est plutôt de faire ça. »
Mais les bûchers, c'est des actes, quand même, les bûchers de vanité.
Oui, les bûchers des vanités, vous savez, il y en a eu deux.
Ah bon ?
Il n'y en a pas eu 20.
J'adore les historiens.
Il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Un en février 97, l'autre en février 98. Par ailleurs, les bûchers des vanités, ce n'est pas du tout quelque chose qui est inventé par la Florence savonarolienne.
Ah bon ?
C'est une tradition qui existe régulièrement et qui est une tradition, effectivement, qui est liée au fait du carnaval, à la conjonction entre le carnaval et le carême.
Et on brûle des écrits et des objets.
On peut brûler des objets qui sont considérés comme des vanités, des représentations du luxe, en quelque sorte. Alors, entendez-vous bien, les bûchers des vanités sont une chose importante dans ce phénomène-là, mais qu'on doit moins lire comme une sorte de condamnation du luxe que comme une revendication de contrôle de l'espace citadin.
Donc,
le bûcher de vanité, oui, qui se fait sur la place de la Seigneurie, c'est une affirmation du contrôle des Savonaroliens sur l'espace italien, d'une tentative de contrôle, qui marche ou qui ne marche pas d'ailleurs. Ça marche pas mal en 97, ça marche beaucoup moins bien en 98.
Parce qu'un peu de richesse et d'opulence dans les cités républicaine, ça fait aussi partie de leur aura.
Bien
et
sûr.
Peut-être là, je prêche le contraire. Même Savonarole, même les plus durs avec la richesse, sont fiers de ça.
Bien sûr, mais il y a une pensée économique savonarolienne.
C'est
il y a un des frères de Savonarole qui fait partie de la famille Rucellai, qui écrit un traité d'économie. Donc, on n'a pas du tout un mépris pour l'économie. Et la discussion, le débat dans les prédications sur les bons de piété, par exemple, montre l'attention à cette question chez les Savonaroliens. Donc là aussi, on a constamment une négociation. Une négociation avec la parole de l'autre. Il y a un système d'alliance qui se met en place. Parce que le conflit génère des alliances.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La négociation nous occupe cette semaine, c'est notre thème, il est difficile pour les philosophes. On l'a constaté, la conceptualisation n'est pas simple. Et aujourd'hui, nous essayons de réfléchir aux raisons de cela. Il y a une histoire du mot négotium par rapport à l'otium, dont il est le négatif. Dans négotium, il y a la vie civique, il y a la vie marchande, il y a la vie de la production. Est-ce que tout cela a été uniment méprisé dans une tradition chrétienne, dans une tradition républicaine italienne? Est-ce le contraire? C'est très complexe. Les trois invités qui sont autour de moi, Sophie van der Meren, Fosca Mariani et Jean-Louis Fournel, m'invitent à beaucoup, beaucoup de prudence et je les en remercie. Je remercie nos invités pour cette subtilité et ce sens de la nuance. Revenons aux Romains, revenons texte après texte à la conception de tout ce qui constitue le négotium, ce qui n'est pas contemplatif, donc la vie active, la vie civique, la vie marchande. Qu'en pensait Cicéron? Eh bien, voici un texte de Cicéron, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, extrait de la Divination. Écoutez.
C'est le grave malheur de la cité qui m'a donné l'occasion d'exposer la philosophie. Au cœur des luttes civiles, je ne pouvais ni défendre la République selon mon habitude, ni rester sans rien faire, et je ne trouvais rien à faire de préférable qui fût digne de moi. Donc mes concitoyens me le pardonneront, ou plutôt ils m'en sauront gré, alors que la République était au pouvoir d'un seul homme, je ne me suis pas caché, ni abandonné, ni laissé abattre. Je ne me suis pas conduit comme si j'étais en colère contre un homme ou contre les circonstances. Je n'ai pas non plus flatté ni admiré la fortune d'un autre au point d'être mécontent de la mienne. Privé de mes fonctions antérieures, je me suis remis à mes études pour soulager mon âme de ses peines, de préférence par ce moyen, et pour être utile à mes concitoyens par tous les moyens possibles. Dans mes livres, en effet, je donnais mon avis, je tenais des harangues, j'estimais que la philosophie remplaçait pour moi la gestion des affaires publiques. Maintenant, puisqu'on a commencé à me consulter de nouveau sur les affaires publiques, je dois leur consacrer mon activité. Je dirais plutôt leur vouer toutes mes pensées et tous mes soins. Il ne faut abandonner à l'étude de la philosophie que le temps laissé libre par les fonctions et les charges publiques.
Sophie van der Meren, vous êtes professeure de grec et présidente de l'Institut d'études augustiniennes. Comment vous analysez ce texte? Faut-il entendre que rien ne vaut les affaires publiques, que c'est ça la valeur suprême pour un Romain de la République et pour Cicéron en particulier?
Alors effectivement, la question de ce texte est très complexe et la première chose que je voudrais dire, c'est d'après ce qu'ont dit les deux autres intervenants, et je suis tout à fait d'accord, le mot otium, en fait, s'enrichit de multiples connotations, et il n'y a pas qu'un seul sens de l'otium, mais oui, on le voit déjà chez les Romains, hein, donc sémantiquement c'est complexe, et ce texte-là, je dirais, est un jalon très important dans l'histoire philosophique du rapport entre otium et negotium. Alors il faut le remettre vraiment dans son contexte historique. Mmh. Ce texte a été écrit en 44. Alors, le traité sur la divination de Cicéron a été écrit en deux temps.
44 avant Jésus-Christ.
Avant Jésus-Christ. On ne peut le comprendre que parce qu'il a été écrit en deux temps. Il y a eu d'abord la rédaction du livre 1, à l'époque où Cicéron était complètement mis à l'écart des affaires publiques, parce que César était l'homme fort de la situation, donc Cicéron était en marge. Et puis là, on est dans le livre 2, qui a été écrit après l'assassinat de César, à un moment où Cicéron pense qu'il peut revenir sur la scène politique.
Oui.
Et retourner aux affaires, hein, au negotium. Donc ce qu'il dit dans ce texte, c'est bien qu'il y a eu, deux phases dans sa conception de l'otium philosophique et dans son travail d'écriture de la philosophie.
Donc l'activité contemplative.
Exactement. Hein, ce qu'il dit, c'est que dans une première phase, hein, le malheur de la cité, dans cette première phase, il a pu exposer la philosophie en écrivant des traités. Et donc son notium était extrêmement important à cette époque-là. Mais c'était une sorte de repli, en réalité, parce qu'il y était en quelque sorte contraint.
Oui.
Et dans un deuxième moment du texte, les choses se renversent. Oui. Et il présente, il est en train de nous dire qu'en réalité, cet otium qui était utile, alors le terme d'utilité, on l'a utilisé plusieurs fois dans cette conversation, hein, la notion d'utilité est très importante. Maintenant, il peut à nouveau être utile d'une autre manière par les affaires publiques. Effectivement, ça prime chez lui. C'est très important. Et chez Cicéron, effectivement, on voit tout le temps une tension, je dirais une aspiration contemplative, une tentation contemplative, mais qui est finalement toujours, je dirais un petit peu renégociée quand la possibilité du negotium lui est présentée. Et c'est finalement, sans doute, ce qui reste le plus important pour lui, même si dans ce texte, on a, je dirais, l'expression de la dignitas, hein, même lorsqu'il était contraint de ne pouvoir s'adonner qu'à l'écriture des textes philosophiques,
oui,
il le faisait avec dignité. Hein, l'otium cum dignitate, c'est une expression forgée par Cicéron, qui veut dire que même lorsqu'il se consacre à la vie contemplative, il le fait d'une façon qui reste estimable pour ses concitoyens, parce que c'est un service qu'il leur rend.
Alors, il y a aussi cette phrase au milieu du texte, où il se justifie d'être oui, sorti de la vie publique.
Oui.
Et il dit, attention, je ne me suis pas adonné à la vie marchande. Parce qu'il
exactement,
dit quand même, je n'ai pas non plus flatté ni admiré la fortune d'un autre au point d'être mécontent de la mienne. Donc c'est pas pour le profit, les
non,
richesses, il a besoin de le préciser, c'est
il a besoin de le préciser, tout à fait. Cicéron n'est pas un négociant, hein, tout à fait. Et on retrouve ici, je dirais, ce qu'a dit aussi Fosca tout à l'heure, c'est-à-dire que l'histoire de ce terme, otium, ne peut se comprendre que parce qu'il y a deux facettes sémantiques de l'otium. D'un côté, un loisir, je dirais, critiquable, où on s'adonne à la richesse, au luxe, au plaisir. Et de l'autre côté, il y a le versant positif de l'otium qui reste valorisé au fil des siècles, c'est-à-dire un temps libre pour la pensée et pour s'adonner à des activités qui sont supérieures à d'autres activités.
Alors, je vous propose qu'on avance un peu
oui,
dans les siècles. Nous avons évoqué Pétrarque tout à l'heure. Donc, Pétrarque, lui, donc, il est italien, il vit au XIVe siècle, il est chrétien, on apporte quelque chose là de nouveau, qui renvoie au début de notre conversation. Fosca Mariani, Pétrarque, on va essayer de réfléchir à ce qu'il a gardé de la valorisation de la vie civique, typiquement romaine ou cicéronienne, de la manière dont il parle la vie contemplative. Et voici un extrait. Moi, si on me l'avait donné comme ça, j'aurais pu croire que c'était du Pascal, c'est-à-dire de
Montaigne.
Ou du Montaigne, non, exactement.
La Montaigne, à demain nos affaires.
Oui. C'est un extrait de la vie solitaire. Où vraiment il critique le divertissement dans la vie active, et on a l'impression que seul l'otium, la contemplation philosophique ou peut-être l'intériorité du croyant, vous me direz si c'est dedans ou non, semble la vraie valeur. Écoutez ce texte de Pétrarque.
L'homme affairé est repu de soucis,
repu de nourriture et de vin, repu de terreur, repu d'envie. Ses échecs le rabaissent, mais les plumes de son orgueil gonflent. D'affliction, il se recroqueville, mais est bouffi de colère. Jamais équanime, sans maîtrise de sa tête, assiégé par une cour, espionné par ses adversaires, agité par les clameurs. Troublé par le courrier qu'il reçoit, importuné par ses propres messagers, tenu en suspens par la rumeur, effrayé par le colportage des nouvelles, paralysé par les présages, berné par les mensonges, fatigué par les lamentations. Nullement libéré, même la nuit, par les querelles qu'il endure, il mène une vie qui ressemble à celle des démons. Par-dessus le marché, il est odieux envers ses voisins, désagréable envers ses concitoyens, soit craint, soit moqué par les siens, suspect à tous, fidèle à aucun. Et privé longtemps de sommeil, il se retourne dans son lit de pourpre. Après avoir expérimenté toutes les formes de désir, après avoir incité son corps misérable et chétif à jouir des circonstances présentes et laissé son esprit volubile vagabonder au loin, enfin vaincu tout de même, il laisse aller ses yeux au sommeil. Mais les soucis veillent, éveillent également son esprit inquiet, consumé d'un feu inextinguible et rongé par le ver de l'immortelle conscience. Alors, il revoit les affaires de la journée. Les clients abusés, les jeunes filles déshonorées, les pupilles trompées, les veuves spoliées, les innocents battus et tués. Et là-dessus, les furies vengeresses de ses crimes. Aussi, il crie souvent pendant son sommeil. Souvent, il se plaint. Et souvent, une crainte imprévue le réveille.
C'est un texte vraiment magnifique de Pétrarque, lu par Nicolas Berger, notre réalisateur. Je vais vous laisser le commenter. Il est tellement beau, je trouve qu'il nous laisse un peu...
Parle-toi.
Oui, tout à fait. Fosca Mariani.
Alors, c'est un texte, merci de l'avoir très bien lu. On voit que c'est un très bon écrivain.
Incontestablement.
C'est un écrivain qui utilise beaucoup, comme on voit, le portrait. C'est-à-dire, il présente une thèse en la personnifiant. Donc, c'est vraiment presque théâtral. En effet, c'est très, très bien lu parce qu'on pourrait le mettre en scène. Donc, il y a une condamnation de l'homme affairé, de l'homme pris par les affaires, la recherche du profit, avec tout le cortège de mauvaises passions, des vices. Cependant, il faudrait, si je peux me permettre, disons, dire deux choses. D'une part, Pétrarque est un homme qui a eu une activité diplomatique très, très importante. Mm-hmm. Donc, c'est un peu un porte-à-faux, ce qu'il écrit, parce que lui-même est un homme très affairé, qui a servi plusieurs maîtres, les Visconti, par exemple, à Milan. Et donc, il y a affaire et affaire. Là, ce qu'il condamne, c'est sûrement le profit, le marchand. En revanche, et c'est peut-être une nouveauté aussi à partir du monde de moines que je défendais jusqu'à maintenant, c'est que il y a des négociats qui sont très bien. Quand ils font partie d'une certaine nouvelle éthique, c'est l'éthique de la reconnaissance sociale et du sentiment d'efficacité.
C'est-à-dire donc ça va. Ce n'est
bon.
Pas le monde des affaires,
c'est pas des
méprisable
affaires.
Pour lui.
Voilà, c'est le monde des négociats où il y a un minimum moral, c'est une petite éthique quotidienne. Mm-hmm. Ce que je disais avant, c'est-à-dire, Otsum Negotium, surtout à la fin du Moyen-Âge humanisme, devient vraiment le problème de l'ancrage du temps quotidien. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce que je le perds? Est-ce qu'il est trop plein? Comment je distribue la vie des familles, des affaires, etc. Vraiment une question très concrète. Donc, ces négociats-là, disons de diplomatiques, politiques...
Ça va.
Ça va.
Donc, il reste quand même l'idée romaine. Les affaires civiques, c'est quelque chose qui a de la valeur.
Oui, mais ce qui ajoute, à mon avis, de important, mais et surtout après, disons, plus développé par dans la Renaissance, c'est l'idée que les négociats, le travail, les efforts, c'est vraiment le fondement de la reconnaissance de soi-même, de son efficacité. Ce n'est pas seulement le service qu'on rend aux autrui, c'est aussi son mérite. Oui. C'est une notion de mérite.
Ça, c'est une notion positive importante. Alors, ce qui est négatif, j'ai l'impression, mais c'est vous la spécialiste, c'est la jouissance. Parce que quand même, il dit très clairement dans ce texte qu'il méprise tous ces gens adonnés au désir de luxe, de richesse, de ces corps qui jouissent, qui en ont fait un idéal de vie. J'exagère?
Oups, là.
Non, ça va pas du tout. Bah, écoutez,
ça, disons, ça,
j'ai entendu ça.
On l'a lu. Ah, bah, il faut dire que Pétrarque, disons, c'est son modernité aussi. C'est quelqu'un qui, pour tout lui, tous les points de tout le point de vue sont des points de vue de fugue. C'est-à-dire, il a jamais trouvé sa paix. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui alterne entre la vie solitaire, la vie des négoces, la jouissance comme dans.
C'est quoi la vie de négoce alors pour lui? Ce que vous appelez là.
C'est vraiment la vie politique, la vie civique, mais ça
politique.
C'est bien.
Ouais.
Et le reste, diplomatique, ouais. Qui est quand même plus sournoise. C'est même pas. Il était un homme diplomatique, disons. Donc c'est vraiment la négociation. Là, la négociation au sens diplomatique prend beaucoup de significations. En revanche, alors ce plaisir-là, c'est mauvais. En revanche, ce que qui change à mon avis, c'est la notion entre au début de la Renaissance, c'est la notion d'otium.
D'otium, elle change.
Elle change parce que
l'idée de la contemplation change.
Change.
Alors, expliquez-nous.
Parce que, déjà, auparavant, au Moyen-Âge, on distinguait entre otium et otiositas. Donc, l'otium, disons, constructive, et l'oisivité paresse.
C'est celle-là, alors, qu'il stigmatise?
Il stigmatise, comme tout le monde, l'otiositas, c'est-à-dire l'oisivité, disons, paresseuse, ceux qui ne prennent jamais des décisions, ceux qui sont lascives, qui se peuvent donner, justement, au plaisir. Mais défend l'otium, non plus comme lieu de la philosophie ou de la contemplation, mais semble une nouveauté, disons, à partir de lui, l'otium comme un moment de création. Et surtout parce que c'est un écrivain, donc c'est l'otium, disons, sa forme de retrait, des replis, est une condition importante pour la création littéraire.
Donc, si j'essaye de synthétiser...
Vous voulez que j'étais pas claire?
Non, pas du tout. C'est que vous dites des choses tellement subtiles et fines, il faut éviter de simplifier. Mais sur otium, négocium, vie contemplative, vie active... En fait, les deux ont leur part critiquable. Et celui qui est dans les affaires, mais qui est surtout dans la jouissance de ses biens, d'une certaine façon, il est contemplatif aussi. Et la mauvaise des contemplations, celle de la jouissance paresseuse.
Oui.
Et donc, qui pourrait ressembler très fort à celui qui n'a pas beaucoup d'argent ni de biens, mais qui est aussi dans une jouissance paresseuse de ce qu'il a. C'est ça qui n'est pas...
Qui est dissipé. Ce qui est important, c'est encore le problème du temps. D'accord. C'est il faut discipliner le temps. Ouais. Donc, discipliner le temps dans le travail, discipliner le temps dans l'otium. Ce qui est intéressant, c'est que l'otium ne devient pas seulement la contemplation, la méditation, la rumination des moines, spéculative, devient un moment de création. Donc, c'est un faire.
Oui.
Alberti défend justement le travail, disons, de l'artiste. Pétrarque défend une forme de solitude et de retrait. Mais ce n'est pas seulement pour contempler la nature, Dieu, mais c'est pour faire, écrire. Donc c'est un lieu de créativité.
Oui.
C'est ça qui, à mon avis,
cette nouvelle
distingue, disons,
de
avant.
Jean-Louis Fournet, je vous écoute.
Si je peux me permettre, vous avez un écho de cela qui est très fort dans ce qu'on appelle, de façon un peu discutable d'ailleurs, la pensée utopique au XVIe siècle. Si vous prenez par exemple un cas comme celui de La Cité du Soleil de Tommaso Campanella, vous avez un passage du texte qui est très intéressant parce que c'est le seul passage du texte où en fait il parle avec le je. C'est un peu il abandonne le narrateur et il dit moi je. Et il parle de Naples.
Oui.
Et il dit le problème de Naples, c'est que dans cette ville, vous avez trois quarts de la population qui est dans l'oisiveté. et donc il dénonce ce qu'on pourrait appeler une oisiveté parasitaire. Mais en même temps, lui, quand il présente sa cité idéale,
oui,
il donne une place à un otium.
Oui.
Un otium qui n'est
mais
pas justement
studieux,
cette oisiveté de parasite, mais qui est un otium qui peut permettre à la fois l'enseignement et le jeu comme partie prenante de ce qui va vous préparer à un bon négocium, que ça soit celui du travail ou celui des armes ou celui de la politique. Donc vous avez très clairement une sorte de distinction qui est en fait le fruit de cette négociation qu'on évoquait tout à l'heure, continue entre le négocium et l'osium. C'est-à-dire que cette négociation entre le négocium et l'osium conduit en fait à distinguer, enfin une sorte de typologie,
oui,
de différents types d'osium et de différents types de négocium. Et ça, c'est ce qui va être produit effectivement par le 15e et le 16e siècle de façon extrêmement significative, mais qui dans une certaine mesure est déjà présente, oui, dans la citation qu'on a évoquée tout à l'heure de Cicéron. C'est ça qui me semble très intéressant, que ce n'est pas une reprise de Cicéron,
oui,
c'est une revisitation de Cicéron à la lumière de ce qui s'est passé dans tout ce moment qui, désordre mendiant, a une période de guerre continue, qui est le négocium obligé, le négocium contraint. Oui. La guerre, c'est le négocium contraint. Or, il ne faut jamais oublier qu'au XVIe siècle, les gens vivent dans la guerre. Et c'est de là que naît la pensée machiavélienne. Et c'est cela qui interdit un repli complet sur l'osium, mais pas une prise en compte d'un osium digne.
Alors,
qui peut servir,
on arrive à Machiavel,
à une confrontation avec le conflit.
Je souhaitais qu'on arrive là à un moment, mais je me disais qu'on ne comprendrait pas bien les enjeux si on n'avait pas déplié tout cela. Et merci de l'avoir fait aux trois invités ici. Machiavel accuse-t-il finalement le christianisme d'être un des responsables de ce qu'il y a de la paresse oiseuse qui finalement mine l'esprit civique? Est-ce que finalement il ne bouscule pas tout en retournant les flèches contre le christianisme?
Alors, oui, il y a un passage très clair des discours là-dessus qui est important, mais il en veut plus à l'Église qu'au christianisme. Mm-hmm. Il en veut plus à l'Église comme institution, à la papauté en fait, qu'au christianisme. Parce qu'il pense aussi, il a une forme de respect pour d'autres formes de christianisme,
oui,
et notamment pour ce qu'il appelle la religion civique. C'est-à-dire que la religion peut étymologiquement être un lien de la communauté, et bien un lien nécessaire.
À supposer que ce soit une dimension, la dimension la plus forte du christianisme. On peut aussi dire que l'Augustin a fait 22 livres de la cité de Dieu et il parle quand même moins, reconnaissons-le, un peu moins de la cité des hommes que de la cité de Dieu.
Oui, mais en même temps, quand le roi de France, Charles V, à la fin du XIVe siècle, décide que la langue française n'est pas suffisamment forte pour parler de politique, qu'est-ce qu'il fait? Il fait traduire Saint-Augustin.
Oui, c'est très intéressant.
Il fait traduire Saint-Augustin pour donner à la langue française des centaines de néologismes dont des dizaines demeurent encore aujourd'hui.
Mais c'est un politique qui le fait, c'est pas un religieux.
Bien sûr,
mais donc, tout ça est
mais,
très complexe,
mais
hein.
Tout ça fait que là aussi, vous avez, comme chez Machiavel, une pensée du lien entre religion et politique. Faut pas oublier quand même que Machiavel, il écoutait Savonarole. Il aimait pas beaucoup Savonarole, mais il l'a écouté. Il a fait partie de ces personnes qui ont, dans une certaine mesure, acquis une forme de culture politique qui devait nécessairement se frotter de religion et qui devait se poser le problème de savoir ce que fait la religion avec la politique.
Et donc finalement, pour Machiavel, qu'est-ce qui est l'otium, c'est-à-dire la vie contemplative, bonne? Qu'est-ce qui est le négotium bon? Alors l'activité civique, ça je pense que c'est évident. C'est celui qui ressource complètement la valeur romaine de l'action politique, etc. Quid des marchands, de ceux qui font marcher la production, des richesses? Donc j'ai deux questions sur Machiavel. Qu'est-ce qu'il pense des intellos qui passent leur temps à réfléchir et à agir peu? Et qu'est-ce qu'il pense de cette partie de la vita activa, des marchands, des commerçants, des producteurs, qui ne sont pas toute la journée dans l'activité civique?
Alors, pour répondre à la deuxième question, on peut aller assez vite. Il n'y a pas une pensée économique profonde chez Machiavel, mais il y a une reconnaissance, évidemment, de l'importance de l'argent. Mmh. Même si, à chaque fois, il se méfie, il a une méfiance par rapport à l'argent, et notamment par le fait qu'on utilise l'argent pour remplacer d'autres choses. Hein, c'est comme ça qu'il faut interpréter la fameuse phrase sur « l'argent n'est pas le nerf de la guerre ». Ça ne veut pas dire du tout qu'on n'a pas besoin d'argent pour faire la guerre. Ça veut dire simplement que l'argent ne peut pas se substituer à d'autres composantes de l'art militaire et de la guerre. Pour répondre à la deuxième question. Pour répondre à la première, c'est assez simple, c'est-à-dire que Machiavel considère que pour ce qui le concerne, lui,
oui,
il n'y a pas d'ossium qui soit bon. L'ossium, dans la fameuse lettre du 10 décembre 1513,
oui,
que certains ont dit être la lettre la plus célèbre de la littérature italienne, il termine par quoi? Il termine en disant qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour revenir aux affaires.
Donc même quand il écrit, il le regrette. Il préfère être aux affaires
mais
que d'avoir à écrire des textes pour
évidemment.
Les...
Évidemment. Et c'est ce qui explique
pour les politiques
sa correspondance avec Francesco Vettori. Francesco Vettori, c'est quelqu'un qui ne croit plus, dans ce moment de crise, à la possibilité de la raison. Est-ce que dit Machiavel pendant toutes ses lettres entre 1513 et 1515, c'est mais non, nous avons une capacité de raisonnement politique. Nous avons une capacité d'influence. Et moi, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer en rétablissant une rationalité politique. Et c'est ce rétablissement de la rationalité politique qui me servira de viatique pour revenir aux affaires. Donc, dites-le à ceux qui vous gouvernent. Dites-le à ceux auprès desquels vous êtes ambassadeur. Machiavel est disponible pour travailler aux affaires.
Mais alors, il est cicéronien, comme dans le texte que nous avons lu. C'est le plus cicéronien de tous, Machiavel. Sophie van der Meren, il regrette d'être réduit par la mauvaise fortune, disons-le presque dans ses mots, dans le domaine politique, d'être désormais réduit à écrire. C'est exactement ce que disait Cicéron dans le texte que nous avons lu tout à l'heure.
Oui, en partie, oui. Même si pour Cicéron, cet otium reste un travail. Et dans, je dirais, cette négociation entre otium et negotium, on voit, je dirais, une resémantisation par Cicéron de ses œuvres philosophiques comme étant un travail. Il dit « j'y travaille, laboro ». Et ça, c'est extrêmement important. Mmh. Donc cet otium reste une activité valorisée.
Une activité valorisée.
Oui, une activité valorisée.
Alors
oui.
Que vous disiez, Jean-Louis Fournel, que malgré l'effort qu'il y a mis quand même, c'est magnifique le travail de la pensée de Machiavel, ça n'était pas le plus valorisé ni valorisant pour lui.
Attention, je n'ai pas exactement dit ça. J'ai dit que pour lui, l'écriture et la pensée permettaient de revenir au négocium et que le texte est un texte d'intervention. Le texte doit servir. Mmh. On pense pour agir, on ne pense pas pour penser.
Réfléchis, think, nous dit Aretha Franklin dans cette chanson culte, composée par Ted White et elle-même, chantée là en 1968. Elle sera reprise dans le film Les Blues Brothers de 1980. J'ai l'impression que ça vous plaît bien, là, il y a une bonne ambiance. Et effectivement, réfléchis, ne fais pas qu'agir, pense. C'était un clin d'œil à la question de l'otium et de la vie contemplative. Merci beaucoup Fosca Mariani, Jean-Louis Fournel et Sophie van der Meren. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à l'histoire. Voici le pourquoi du comment.
Comment penser l'histoire universelle? Comment penser l'histoire universelle aujourd'hui? Comment penser l'histoire universelle à un moment historique où, très paradoxalement, d'un côté, cette idée d'une histoire universelle semble s'être écroulée, ou d'un autre côté, où elle semble s'être aussi renforcée, renouvelée, jusqu'à rejoindre, pourrait-on dire, l'histoire de l'univers elle-même? En effet, d'un côté, l'idée d'une histoire humaine unique et universelle qui donnerait sens à toutes nos petites histoires semble s'être, en quelque sorte, écroulée avec la fin de l'histoire en deux temps, en 1989, la fin du conflit entre des histoires universelles, mais aussi le retour des histoires éclatées qui semblent menacer le grand récit d'une histoire de l'état rationnel, universel, libéral et économique qui permet la reconnaissance des conflits de tous contre tous dans un cadre commun, accepté par tous, dans un cadre en effet universel. Ce cadre d'une histoire universelle, acceptée par tous, semble s'être éclaté au profit de représentations désormais conflictuelles du sens des histoires individuelles et du sens que chacun donne à l'universel. Il y a un conflit des grands récits et peut-être que nous nous situons dans une époque d'irréconciliable conflit entre les universels d'un côté. Mais d'un autre côté, l'histoire universelle semble s'être réunifiée. Il y a désormais l'inscription de l'histoire des humains dans l'histoire de la planète, dans l'histoire de l'univers. Les grands modèles historiques font leur retour. L'historien Dipesh Chakrabarty nous montre que l'histoire du climat est deux fois humaine. Les humains ont transformé la planète, c'est l'Anthropocène, et d'un autre côté, les humains se situent désormais dans l'histoire de la vie. Par rapport aux grandes catastrophes écologiques, le climat, la planète, les humains se retrouvent dans une histoire encore plus universelle qu'avant, une histoire biologique aussi, où les conflits humains, les effets, représentations historiques elles-mêmes, dans notre cerveau, dans l'évolution de la vie, prennent sens grâce à un grand récit biologique vital des humains en tant que tels. Il y a donc d'un côté un éclatement de l'universel et d'un autre côté une réunification de l'universel qui semble avoir du mal cependant à être accepté. Mais est-ce bien là le dernier mot de l'histoire universelle aujourd'hui? En réalité, il faut revenir aux faits humains eux-mêmes, à la représentation que les humains se font de l'histoire qui est devenue irréductiblement plurielle. Et c'est de la négativité entre les histoires qui définit le point commun dans une histoire. Il y a la négativité des catastrophes écologiques qui nous situe dans une histoire commune, mais il y a aussi les conflits entre les histoires qu'il faut surmonter pour arriver à une histoire commune qui n'est pas immédiatement universelle, mais qui est un dialogue. Prenons l'exemple de l'Europe. L'histoire de l'Europe a prétendu être l'histoire universelle. Il y a pourtant bien aujourd'hui une Europe, et il faut faire l'histoire de l'Europe pour comprendre aussi comment elle réagit à des, par exemple, à des agressions extérieures. Pourquoi elle a une histoire profonde et commune, mais cette histoire sera plurielle. L'histoire de l'Europe, vue de Pologne ou de France ou d'Espagne ou d'Angleterre, ça n'est pas la même. Et pourtant, il y a bien, justement par sa diversité interne, une histoire de l'Europe. Cet espace commun qui se crée entre des points de vue différents, assumés, connus comme tels, avec l'importance des sciences historiques, des faits objectifs, des traces, des effets de ces représentations des humains dans l'histoire concrète de l'univers, ces petits bouts de silex qui nous restent de la préhistoire, ces traces des grands crimes, ces traces aussi des merveilleuses créations historiques, cette objectivité de la diversité de l'histoire humaine, de sa négativité, de ses conflits, de ses crimes, de ses drames, c'est à travers cette connaissance concrète des histoires qu'on reconstruira une histoire commune.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Armance Bourquin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Felpin, Chaïma Gibouard, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.